بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ الإسلام، nous remercions Allah عز وجل qui nous donne la possibilité donc de nous réunir, de parler du din d'Allah Rabbul Izza. Et nous savons que les malaïka sont à la recherche de ce genre d'assemblée où on parle de la religion d'Allah Azza wa Jal, où on fait des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'issue de ces majalis, à l'issue de ces assemblées, comme Allah Rabbul Izza l'a promis, les péchés des personnes présentes sont pardonnés. Et dans une version d'Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, les petits péchés de ces personnes ont été remplacés par des hasanats, par des récompenses. Donc nous sommes tous gagnants en assistant au majlis. Et autre point important à retenir, c'est la sincérité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on écoute. L'objectif principal, c'est d'écouter et d'en tirer les conséquences, les conclusions, et de pouvoir mettre en pratique, inshallah. Hein, ça, c'est l'objectif final, c'est de faire le maximum d'efforts pour que ce que nous allons écouter, inshallah, puisse pénétrer nos cœurs et que nous arrivions à les mettre en pratique. Qu'est-ce qui fait qu'à notre époque, malgré le nombre incessant, la quantité de programmes, de bayan, de discours, de conférences, qu'est-ce qui fait que malgré, subhanallah, cette avancée dans la propagation de la religion, qu'est-ce qui fait que malheureusement, beaucoup de personnes restent dans le péché? Qu'est-ce qui fait qu'une personne assiste à un programme, écoute des paroles en rapport avec le Coran, avec la Sunna, des paroles profitables, mais malgré cela, la personne persiste et reste dans ses erreurs, dans ses péchés? De façon très simple, les ulama rahimahumullah expliquent que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle de l'engrenage de péché, lorsqu'un musulman, on va essayer de se rapprocher un petit peu au moins, il y a plus de baraka aussi inshallah. Lorsque le croyant, il succombe au piège de shaitan et il accomplit un péché, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué qu'un point noir s'installe sur son cœur. Hadith très connu. Si la personne demande pardon avec sincérité, le point noir est effacé. Mais si la personne ne demande pas tawba à Allah Azza wa Jal et qu'il continue à faire des péchés et qu'il persiste dans ses erreurs et qu'il cumule péché sur péché sans jamais demander pardon à Allah Azza wa Jal, les points noirs vont cumuler. Et qu'est-ce qui va se passer? Le cœur deviendra obscur. Et lorsque le cœur devient noir de péché, c'est un cœur qui ne profite plus des rahmas, de la rahma qui descend dans ce genre d'assemblée. C'est un cœur qui ne va pas goûter à la bénédiction qu'il y a à travers la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un cœur qui devient dur. Donc ça, c'est la réponse à notre question, à notre interrogation. Qu'est-ce qui fait que malgré le nombre de programmes, d'assemblées religieuses qu'il y a à notre époque, mashallah, le nombre de savants aussi qui, dans la mesure du possible, essaient de propager comme ils peuvent, mashallah, par différents moyens, par les bayans, par les réseaux sociaux, autre chose. Mais malgré ça, on constate que la umma persiste dans les péchés. C'est cet engrenage de péché. C'est le fait que le cœur penche vers le nafs, vers le hawa. C'est que le cœur n'arrive pas à résister aux pulsions, aux insufflations des shaitans, tout d'abord, ensuite aux pulsions négatives. Et le point qu'on est en train d'étudier et qu'on avait commencé il y a à peu près 3 ou 4 séances, donc ça remonte à 2 mois ou 2 mois et demi, c'est en rapport direct avec le contrôle du nafs. Lorsqu'on avait vu que parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyama, parmi ces catégories, il y aura cette personne qui a reçu les avances d'une femme de grande beauté et une femme qui en même temps est issue, elle appartient à une grande famille, une femme noble entre guillemets, et que cette personne a la possibilité d'accepter de faire le zina. Et que cette personne donc désire cette femme, mais cette personne va faire preuve de sabr anil ma'asiyah, il va obéir à Allah Azza wa Jal, il va faire preuve de taqwa, de piété, et il va s'éloigner de ce péché uniquement par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal, sans qu'il y ait un facteur extérieur. Il ne s'éloigne pas du péché par rapport au regard des gens ou par rapport à toute autre raison. Là, wallah, la seule chose qui l'éloigne du péché, qui le permet de rester éloigné du péché, c'est l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal. On avait expliqué que cette action-là, elle est magnifique, elle est exceptionnelle, parce que cette action-là, elle va dans le sens de deux amals, de deux réactions qui sont attendus par Allah Azza wa Jal. Premièrement, on avait dit as-sabru 'anil ma'siyah, la patience face au péché. Dans d'autres majlis, hein, dans d'autres programmes, on avait eu l'occasion d'expliquer qu'il y a trois catégories de patience. Il y a ce qu'on appelle as-sabru 'ala at-ta'a, faire preuve de patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est-à-dire que je me lève, par exemple, pour la salat de Fajr, ou alors que je vais jeûner demain, ou alors je vais faire la prière de la nuit, ou je vais prendre mon Coran, je vais lire le Coran. C'est ce qu'on appelle as-sabru 'ala at-ta'a. C'est faire preuve d'endurance dans le bon sens, dans l'accomplissement des bonnes actions. Et ça, c'est le amal salih, c'est la bonne œuvre, la bonne action. Mais dans cette action, on va dire qu'on va retrouver une grande catégorie de personnes. On va retrouver les muttaqis, et Allah seul peut juger, les personnes qui sont vraiment, mashallah, pieuses. On va retrouver le musulman qui pratique, mais parfois fait des péchés, donc celui qui a un niveau moyen dans sa pratique de la religion, et là aussi on met entre guillemets, Allah seul juge qui est muttaqi, qui est moyen. On va retrouver également le pécheur qui occasionnellement va faire de bonnes œuvres, par exemple pendant le mois de Ramadan, ou alors lorsqu'il va au Hajj, ou alors lorsqu'il va au Umrah, là il va s'efforcer d'accomplir de bonnes actions. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui va par exemple au Hajj et qui ne fait pas ses prières? Ça, c'est inconcevable. La personne qui est dans un endroit sacré, ou une personne qui durant le mois de Ramadan ne prie pas le Fajj ou ne prie pas le Asr le Maghrib, ça aussi c'est inconcevable. Ce qu'on appelle Sharaful Zaman et Sharaful Makan, dans des moments propices ou dans des endroits propices, on va dire que tout le monde, que ce soit le Muttaqi, que ce soit le Fasiq, le pécheur endurci, tout le monde accomplit de bonnes œuvres. Donc As-sabru 'ala at-ta'a, c'est quelque chose de louable, mais qui ne fait pas kamalul iman, qui ne fait pas la perfection de la foi. Maintenant, c'est pas le sujet du jour, mais quand on parle de sabru 'ala at-ta'a, là il y a une précision, ce n'est pas uniquement celui qui le fait occasionnellement, mais celui qui fait preuve de patience dans l'accomplissement de bonnes œuvres, c'est-à-dire celui qui va le faire régulièrement. Donc là aussi on va distinguer deux catégories de personnes. Maintenant, as-sabru 'anil ma'siyah, fait preuve de patience face au péché, contrôler son nafs, dire non à Shaytan, wallahi l'azim, je jure par Allah que ça c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et en fonction de la faiblesse de l'être humain, en fonction de son vécu, en fonction de sa situation sociale ou quelle que soit sa situation, on va dire que les gens penchent vers différents péchés. Certaines personnes ont une faiblesse dans les relations commercial, quand on parle d'argent, quand on parle de transactions, ils ont beaucoup de mal à ne pas emprunter de l'argent avec la banque, avec un organisme de crédit. Petite parenthèse, là, en ce moment, il y a le salon de la maison, on ne fait pas de pub, mais il faut faire très attention. Il y a des fois, on est tenté, j'y ai été, il y a des choses magnifiques qui coûtent très cher, et en période de crise, il y a des fois, on se dit que oui, bon, ben, on fait un petit crédit, mais ce petit crédit, wallahi l'azim, où est-ce que ça peut nous amener? Le prophète alayhi salat wa salam avait donné la description des adabs, des personnes qui consomment de l'intérêt. Et dans le Coran, Allah Rabbul Izzah dit que ceux qui consomment de l'intérêt, le jour de Qiyamah, comment est-ce qu'ils vont se réveiller? Comment est-ce qu'ils vont être ressuscités? Comme celui qui yatakhabbathu ash-shaytan min al-mass, nasallallahu al-salamata wa al-afiya, comme la personne qui est possédée, personne qui a été possédée par un diable, par un démon. Vous voyez sa réaction, comment la personne est incontrôlable. On voit que c'est quelqu'un, on va le qualifier comme quelqu'un de fou, mais en fait c'est quelqu'un qui n'est pas fou, mais qui a été possédé par les iblis, par les shayatin. Mais dit que le jour de Qiyam, cette personne qui dans ce dunya, ça pouvait être quelqu'un de bien, en Dieu mais de bonne famille, quelqu'un qui a une situation sociale enviable, maintenant de quelle façon est-ce qu'il est arrivé là aussi, wallahu alam. Et le jour de Qiyam, alors qu'on le considère comme le père de famille modèle, le mari modèle, le moussalli modèle peut-être, qui est abonné au premier saf, qui est là, qui est présent, qui donne le programme et ainsi de suite, qui a des ta'lim, qui, mashallah, donne l'argent à la masjid et ainsi de suite. Bref, quelqu'un qui était normal, en guillemets, quelqu'un d'admirable. Et le jour de Qiyama, les gens sont surpris. Sont surpris parce qu'on pense que c'est... Vous savez, le jour de Qiyama, chaque personne regarde nafsi, nafsi. Ça, on sait ça. Mais il y a un regard par rapport aux gens qui sont humiliés. Et c'est là l'humiliation des mudhnibin. L'humiliation des pécheurs, c'est le regard des gens sur eux. Alors que la protection, on fait hors sujet, mais c'est une habitude. Alors que la protection des personnes qui sont aimées par Allah, c'est qu'Allah va
cacher leur péché. Vous connaissez ce hadith, lorsque la personne sera devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah Rabbul Izza va lui faire reconnaître ses péchés et qu'Allah va dire que comme je t'ai protégé de ce dunya, j'ai caché tes erreurs, en ce jour également, je cache tes erreurs. C'est-à-dire l'humanité, al-khalq, ne saura pas que cette personne, même si d'apparence elle était dans le droit chemin, mais elle a fait quelques erreurs. Ça c'est quand Allah veut honorer quelqu'un. Maintenant l'humiliation pour certaines personnes, nasallallahu alayhi wa sallam, le jour de qiyamah, c'est lorsque devant Al-Khalq, devant Ardul Mahshar, devant la terre de la résurrection, la personne sera humiliée de quelle façon que les gens vont voir son châtiment. Dans cet hadith, il est même dit que les pécheurs seront agrippés par les malaïkas, par les anges qui sont responsables des adhab, des supplices de l'enfer. Ils vont, je ne fais même pas le geste sur moi ou sur personne, c'est quelque chose d'horrible, qu'Allah nous protège. Ils seront agrippés par leur visage et c'est par leur visage qu'ils seront jetés dans le Jahannam, qu'Allah nous protège. Et ça, ce sera visible. Et également, celui qui est ressuscité de cette façon, comme un fou, comme quelqu'un de possédé, les gens le verront. Et ce sera là encore une humiliation de plus pour cette personne qu'elle l'a. Pourquoi? Parce qu'il considérait que le riba, l'intérêt, c'était halal, et ainsi de suite. Également, qu'Allah nous protège, ça c'est plus un doigt pour les savants, hein, parmi les personnes qui seront sévèrement punies et dont la punition sera visible par les gens de l'enfer, ce sera ce alim, ce savant qui prêche le haqq, qui prêche la vérité, mais qui ne l'accomplit pas. C'est très souvent, on dit, ah, grand malana, grand molissab, grand mufti, on respecte. Ouais, c'est bien, d'accord, mais il faut savoir que le hisab est adaq, le hisab est plus dur pour ceux qui ont la science, le jour de Qiyam. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sans le moindre doute. Est-ce qu'ils sont du même degré, celui qui connaît, ceux qui ne connaissent pas? Sans le moindre doute. Le alim, le savant, a un rang auprès d'Allah Rabbul Izza, mais à condition qu'il met en pratique ce qu'il propage. Et donc, ce savant, le jour de Qiyam, qui n'aura pas mis. Après, il y a différents hadiths. Le savant qui l'a fait par ostentation. On verra qu'il sera jeté dans le Jahannam en premier. Il y aura celui également qui prêchait, mais qui ne mettait pas en pratique. Il dit que il va tourner dans le Jahannam par ses, excusez-moi, c'est choquant, al-am'a, par ses intestins, il va tourner, ce sera son châtiment, et les gens seront étonnés de le voir, les gens du Jahannam. Ils vont dire que toi, tu es là alors que toi-même tu nous ordonnais le bien et que tu nous interdisais le mal. Il disait que oui, je vous ordonnais le bien, mais je ne l'accomplissais pas, je vous interdisais le mal alors que moi-même je le faisais. Donc franchement, mes chers frères en islam, c'est des hadiths effrayants, ça nous concerne tous. Et chaque mu'min, chaque mu'mina doit lire les hadiths qui parlent du Jannah, mais également les hadiths qui parlent du Jahannam. Al-wa'adu wal-wa'id, al-targhib wa al-tarhib, les annonces de bonnes nouvelles, mais également les mises en garde, parce que nous devons de nous remettre en question. Ça, c'est extrêmement important. On l'expliquait encore dans les hadiths salihin hier, le croyant qui ne se remet pas en question, wallahi, c'est quelqu'un qui fait fausse route totalement. Celui qui reste ses acquis. Celui qui, depuis qu'il est baligh, il se contente de ses 5 prières, de sa lecture périodique du Coran, Yassine le matin, Tabarakalladhi le soir, et qui se contente de son Ramadan passé de telle façon, de son Umrah tous les 3 ou 4 ans, son Hajj tous les 5, 6 ans, et ainsi de suite. Et il estime qu'il est, mashallah, le bon musulman. Il a l'impression que le Jannah lui est entièrement accessible. C'est quelqu'un qui se trompe royalement, parce que la personne ne réactualise pas sa foi. Et on a tous besoin de réactualiser notre iman. Ulama, aqidah dit al-imanu yazid wa yanqus. Ça, on l'a expliqué beaucoup de fois aussi. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas stable. La foi, le iman, soit il progresse, soit il régresse. Yazid bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siya. La foi progresse, augmente par les bonnes œuvres. Mais la foi diminue également par le péché. Et le rafla, l'insouciance, on pourrait dire que ça fait partie des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Donc, il est important. Et la meilleure solution pour réactualiser son iman, augmenter son iman régulièrement, c'est par le biais du ilm, c'est par le biais de la connaissance religieuse. Vous voyez l'exemple qu'on est en train de citer, qu'on va essayer d'aborder dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, connaître quelle était la réaction de Youssouf alayhi salam face à cette princesse, moi je l'appelle princesse, parce qu'elle était jeune, qui était d'une grande beauté. Et on va essayer de voir qu'il y a 3 réactions qu'on peut faire, istinbat, qu'on peut retenir à travers les versets. Et il est important d'essayer de le mettre en pratique dans les situations réelles, d'accord ? Mais comment est-ce qu'on va connaître ça si on ne passe pas par le biais d'un kitab, d'un livre, ou par le biais d'un savant, ou par le biais, ou en assistant à une assemblée, ou en écoutant, en téléchargeant un programme de ilm? La connaissance religieuse, mes chers frères, en islam, c'est quelque chose d'essentiel. À moins qu'on soit arrivé à un degré où lorsqu'on lit le Coran, on le comprend, on connaît le sens, mais on va dire que ça c'est un certain niveau, il est important. Et par rapport à ça, nos remerciements aux responsables de la masjid de Montreuil pour la facilité, bi'idnillah, qu'ils donnent aux sœurs, aux mères et aux sœurs, de pouvoir assister au programme. Je ne répéterai jamais assez, j'ai fait maintes et maintes fois entendre notre voix auprès des responsables religieux qu'il est extrêmement important que les programmes soient accessibles aux dames. Certes, il y en a qui peuvent écouter par le biais d'internet ou autre chose, mais pas tout le monde a le temps de le faire, de télécharger, et pas tout le monde a peut-être les moyens techniques aussi. Il y a des personnes âgées qui ne savent pas le faire. Aham Shay, et pour profiter également de ces fada'il, parce que celui qui télécharge un programme, qui l'écoute, on ne peut pas dire qu'il obtient les mêmes récompenses. Là, le fait d'être présent, qu'on soit là, ou par exemple la salle des dames qui est physiquement séparée de 30 ou 40 mètres, les malaïkas, subhanallah, ils savent pertinemment qui c'est qui est venu pour le majlis. Et chaque pas qui a été fait, les gens se sont déplacés, ce sont des récompenses. Donc, priver nos mères et nos sœurs de telles opportunités, c'est compliqué. Et nous ne nous arrêtons pas de nous plaindre souvent les questions dans les forums ou dans les échanges entre savants ou ainsi de suite. Ça revient, oui, mais l'éducation des jeunes, le problème par rapport aux jeunes. Moi je dirais que avant d'essayer de traiter le problème des jeunes, il faut un peu remonter à la base. Quelle éducation ces jeunes ont reçue de la part de leur maman? Parce que c'est pas vraiment le papa qui donne le tarbiya. Le papa, il est là le matin, il est là le poufajar, il va travailler, il revient le midi et deux, c'est une pause, il retourne travailler, il retourne le soir, il est fatigué, bon, il enchaîne, il vient à Maghrib Isha. Qui est-ce qui passe plus de temps à la maison avec les enfants? C'est vraiment la maman. Alors, moi, je viens à la masjid, donc déjà spirituellement, je profite, j'écoute les programmes, et puis j'arrive chez moi, je suis fatigué, donc j'explique pas, je vais dormir, et mon épouse, ma femme, ou ma maman, ma sœur, ma nièce, et ainsi de suite, ma tante, quand est-ce qu'elles vont écouter quelque chose qui leur permettra de prendre une meilleure orientation dans leur cheminement spirituel vers Allah Azza wa Jal et dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants? Ça c'est grave, ça, si une maman, une mère de famille ne réactualise pas son iman par le biais du ilm, on va dire que c'est quelqu'un qui ne se fixera pas les bons objectifs. Il va rester sur ses acquis, les acquis qui en général sont hérités des parents, mais la personne ne va pas comprendre que pour que mon enfant, mon fils ou ma fille ait une éducation correcte, j'ai besoin de lui enseigner telle chose. Regardez le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, on a, subhanallah, et ça c'est fadlu min Allah, depuis 4 lundi à peu près, ou 4 lundis, on explique à Saint-Clotilde, on explique, c'est un hadith basique qui est connu de tout le monde, mais je vous dis clairement, ce hadith-là doit être connu par tous les mamans. Quand une maman reçoit, quand elle accouche, elle a un petit bébé, d'accord? Moi je pense que parmi les cadeaux qu'on a envoyés, c'est ce hadith gravé ou traduit en français, comme vous voulez, c'est la base de l'éducation de l'enfant. Lorsque le prophète est avec Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il explique à Ibn Abbas comment doit être ta foi, ta connexion avec Allah, ta croyance en Allah, ta confiance en Allah et ta relation avec les gens. Mais c'est un hadith azim. Franchement, ce hadith-là, il est hyper puissant et on a grandement besoin de connaître ce genre de texte pour donner la bonne éducation à nos enfants. Je vous dis très très clairement, je suis moi-même directeur de madrasa, je sais exactement que ce n'est pas en venant à la madrasa que nos enfants deviendront, ils n'ont pas la garantie d'être de bons musulmans. Combien de temps on passe avec les élèves? Le matin, on passe 45 minutes avec eux, une heure de temps. Et s'ils viennent l'après-midi, pareil, c'est une heure de temps et demie. Dans une heure de temps, vous avez 30 élèves à gérer. Vous croyez qu'on va faire du cas par cas? Mais c'est pas possible. On brasse. On fait lire en groupe. On écoute les sabacs en groupe. Quand on enseigne les matières en français, ben, c'est une classe. C'est pas mon enfant qui est en face de moi. Ce sont mes élèves. Donc, ils sont à 20, 25, 30. Mais, une fois de temps, on peut poser des questions, on peut échanger. Mais je veux dire que le contact il n'est pas aussi important que ça. Certes, la madrasa, c'est quelque chose d'essentiel pour que l'enfant apprenne, ce qui est nécessaire pour construire sa spiritualité. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien inconscient, ces parents démissionnaires qui pensent que, voilà, j'envoie mes enfants à la madrasa, l'éducation religieuse sera assurée par le fundi, le molissab, le professeur. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. L'éducation, c'est à la maison, c'est al-umm, c'est la maman. Et donc, si, alhamdulillah, nos mères, nos sœurs ont la possibilité d'assister au majalis, ben, elles vont voir leurs péchés purifiés également, les péchés vont partir, et elles vont profiter, et ce sera quelque chose. Le retour sera profitable pour la famille. Le retour, ce soit, quel que soit l'intervenant, quelle que soit la personne qui parle, mais du moment que les paroles de Dean pénètrent le cœur de mon épouse ou de ma maman ou de ma sœur, arrive à la maison, assurément, bi'idhnillah, si elle était sincère, et certainement, quand on vient à la masjid pour écouter un majlis, on est sincère, bien assurément, il y a un changement dans la vie. Et ce changement sera palpable dans la façon de gérer la maison. Donc, pour cette catégorie de personnes, on a dit que ce n'est pas une personne qui a accompli une action extraordinaire. Ce n'est pas que la personne qui a passé l'intégralité de ses nuits dans le tahajjud depuis qu'il est baligh jusqu'à sa mort. Ou la personne qui, à chaque fois qu'il gagnait un peu d'argent, il donnait 20 poissons ou la moitié de le chemin d'Allah. Non, ce ne sont pas des actions spectaculaires. Non, c'est quelqu'un qui reçoit une proposition de zina, d'adultère, et qui résiste. Et qui dit non. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, les gens ont des faiblesses différentes. Certains, c'est en rapport avec l'argent. Mais ce qui est commun aux hommes, et ça, il n'y a pas besoin de fuir ou de dire que non pour certains, pour d'autres. Non. C'est comme ça, c'est dans la nature de l'être humain. Le point faible de n'importe quel homme, c'est le penchant vers la femme. On va dire que ça encore, c'est une pulsion qui est saine, d'accord? Mais on va dire que ça, c'est une faiblesse qui est commune à l'homme, sans distinction de iman ou d'ancienneté de la religion. Personne ne peut se dire que, quelle que soit la femme qui me fait une proposition ou autre chose, moi je suis clean, mashallah, je suis hafid al-Qur'an, ou j'ai tel degré de la religion, donc moi je suis sain et sauf, et personne ne m'atteindra. Abadan, wallah. On va voir l'histoire, si on a le temps aujourd'hui, de Ata, c'est des tabi'in. On parle des tabi'in qui ont été exposés à de telles fitna, et comment est-ce qu'ils ont dû être fermes et forts pour résister. Et on avait dit également que ce qui est encore plus difficile, c'est lorsque l'homme reçoit des avances de la femme. Quand un homme va draguer, excusez-moi le terme, d'accord, va essayer de convoiter une jeune femme, et puis bon, on va dire qu'il y a quelque chose qui va se créer. Mais lorsque c'est la femme qui propose à l'homme, je vous assure, hein, excusez-moi de le dire de façon aussi franc, d'accord, vous êtes, imaginez, Djuned, un beau jeune homme comme Djuned, programmateur, comment on appelle ? Tu es quoi encore ? Ingénieur, ainsi de suite. Ron Salat, non, c'est Ron Salat ton truc ? Il marche pas sur BlackBerry. Hein. Donc voilà, il est au volant de sa voiture, il travaille à Saint-Louis, il est dans les embouteillages, juste à côté de lui, il y a une, mashallah, une créature d'Allah, d'accord, qui baisse sa vitre et qui fait un petit clin d'œil, fait un petit, comme ça, il remonte sa vitre. Messieurs, Djuned, son cheveu monte, son barbe aussi. Alors, quel être humain, quel homme normalement constitué peut rester insensible à tout ça ? C'est-à-dire que ça, c'est, on pointe du doigt la faiblesse de chaque être humain. Et lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit dans le Coran, wala taznou, innahu kana fahisha. J'ai bon ou je me suis trompé de verset ? Il faut commencer à réviser pour Tarawih. Wala, hafizab, taqrabu, wala taqrabu zina. Ce n'est pas wala taznou. Allah Rabbul Izzah ne dit pas, n'accomplissez pas l'adultère. La wallah, wala taqrabu, n'approchez pas l'adultère. Pourquoi n'approchez pas ? C'est quelque chose de tellement sensible, c'est tellement délicat et c'est tellement khafi, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Shaitan fait un travail sur toi et il sait exactement à quel moment il peut t'avoir. C'est comme pour Kurbani, hein? Le bœuf est là, il est tranquille, vous envoyez la corde de l'autre côté. D'accord ? Il ne peut pas y tenir ses batailles à terre. Vous dites quelqu'un, fait passe doucement comme ça là, le bœuf ne comprend rien. Tout d'un coup, quand il dit « Maman, tire », et tiens, la corde, il tombe. Shaitan, c'est exactement comme ça. Il vous approche, il vous travaille minute par minute. Moi, je connais des cas, enfin, j'espère que les gens n'écoutent pas ce programme, ne se reconnaîtront pas, des personnes qui, en voyant un jeune homme, non, c'est une dame en plus, en voyant un jeune homme régulièrement, sorti d'école. Je vais chercher mes enfants à l'école. Ben là, c'était de le sens inverse, hein. C'était une dame. Je vais chercher les enfants à l'école. Elle rencontre un monsieur. Musulman, pareil, et à force de se voir, ben, on se croise. Alors, les comptes, d'abord, il baisse sa tête, d'accord. Après, à un moment donné, c'est un petit signe de la tête, d'accord. C'est la fausse pudeur. Après, c'est ça, on est comme. Après, ça, on est comme, ça va. Après, une semaine plus tard, ben, ça, c'est ton enfant. Ils sont dans la même classe. La conversation est engagée jusqu'à ce que Shaitan fasse un travail et que cette femme sombre dans l'adultère, elle quitte son mari. Qissa haqiqa. Histoire véridique. J'ai trafiqué un petit peu l'histoire pour pas que machin, mais ça va un peu de ce sens. Ça commence par un regard. Ça commence, et d'où c'était ici qu'on avait cité le poème, Navratun wa ibtisamun wa liqa'un wa salamun, et le reste je vous dis pas. Il a dit, ça commence par un regard, ensuite un sourire, ensuite une rencontre, des échanges, et après, c'est Shaitan qui fait son travail. Et Shaitan, il est tellement malin, c'est de la perversité, puisque il est pervers, il arrive à, il nous fait cautionner nos actes. C'est-à-dire, il fait en sorte qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire des pas vers le zina. D'où l'interdiction d'approcher le zina. Quand il dit salam, salam alaikum, il dit, Shaitan, il vous dit, afshus salam abaynakum. Hadith prophétique, répandez le salam entre vous. Et si on va plus loin, faites salam à ceux que vous connaissez et à ceux que vous ne connaissez pas. Donc il dit que salam alaikum, ya urti, salam alaikum ma soeur, salam alaikum, vous allez bien. Il dit que voilà, je fais une bonne action. Ibtissam, tissam sourit. Ibtissamuka fi wajhi akhika sadaqa. Lorsqu'un homme, lorsqu'une personne sourit avec son frère en islam, c'est une sadaqa. Il a été dit son frère en islam, il n'a pas été dit sa sœur en islam. Mais après, il arrange le hadith, les shaitan. Il dit que non, mais sourire, de toute façon, c'est une bonne action. On a appris, il s'est dit, il faut sourire. Il faut arrêter de faire la figure serrée comme ça, il faut sourire. Et il a réalisé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va dire que ça soit le bon comportement. Ouvre le portail pour lui, il essaye de passer, attrape le saxo maman, et ainsi de suite. Il a réalisé, et puis shaitan, il peut vous avoir. Donc, quand Allah Rabbul Izzah de le Coran dit, voilà, taqarabou, pourquoi voilà, Allah Rabbul Izzah dit, voilà, taqarabou. Et à vérifier, j'espère de ne pas me tromper, il n'y a pas d'autres péchés, il n'y a pas d'autres péchés pour lesquels le nahi, l'interdiction passe par le mot wala taqarabu, n'approchez pas. Que ce soit le riba, que ce soit les autres péchés, à vérifier, mais c'est certainement un des seuls péchés dont l'interdiction, elle englobe même tous les, ce qu'on appelle les préambules, tout ce qui va, c'est pas les préliminaires parce que ça a notre sens à notre époque, tout ce qui est autour du péché, tout ce qui peut nous amener vers le péché. Et en même temps, ce péché est tellement lourd en conséquence que le zina, ça peut détruire un couple. Le zina peut détruire une famille. Monsieur, madame avec 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, le mari sous coco l'a bloqué, il est parti en voyage d'affaires, je sais pas quoi, et puis il a fait des petites bêtises, et puis la femme a appris qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, la femme demande le divorce, et ce sont là 4 enfants, 5, 6 enfants ou 2 enfants qui se retrouvent séparés de leur papa, de la maman. C'est une famille qui va éclater parce que l'homme ou la femme a voulu passer un peu de temps dans le shahawa, dans les plaisirs, sans se rendre compte que c'est un péché et que c'est quelque chose qui détruit également sa vie de ce dunya. 2 familles peuvent clasher, telle grande famille, il y a eu adultère et il y a eu séparation. Du coup, les 2 familles, hein, ils vont avoir des relations extrêmement tendues et il y aura une cassure dans la oum. C'est-à-dire que les conséquences de l'adultère, c'est terrible. On n'imagine pas, c'est pas uniquement le péché que tu accomplis, parce qu'il y a des fois, il dit, personne qui dit, bon, il fait zina, mais après, il m'a quand même demandé. Tu penses que ça marche comme ça? Vous pensez qu'Allah Azza wa Jal ne connaît pas l'intention de chacun? Et que parmi les conditions pour demander, pour que le tawbah soit accepté par Allah Azza wa Jal, il y a la sincérité. La sincérité, il y a les remords, le regret. Une personne qui programme le péché, point 1, étape 1, péché, étape 2, Makka. Pour demander pardon, je vous assure qu'à l'étape 2, illa marahimallah, et Allah seul c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Je vous assure qu'à l'étape 2, il n'arrive pas à regretter l'étape 1. C'est impossible. Parce que le cœur n'est pas véridique. On peut mentir avec ses jawar et avec ses membres, mais on ne ment pas avec le cœur. Les sentiments, tu ne peux pas masquer les sentiments. Et pour que le tawbah soit accepté devant la Kaaba, devant Multazam, Arafat, il faut être mukhlis, il faut être sincère. Et pour être sincère, il faut regretter le péché. Et quand on a essayé de faire le petit malin, on n'arrive pas à regretter. Vous demandez pardon, astaghfirullah, vous n'êtes pas concentré. Vous demandez astaghfirullah, vous pensez encore au péché. Vous demandez pardon, 10 minutes après, vous revenez, vous repensez à la chose. C'est-à-dire que le cœur ne s'est pas détaché. Le cœur ne peut pas se détacher si cela a été fait de manière malhonnête. Donc ça, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Donc, on va dire que ça, c'est une faiblesse propre à l'être humain. Et je dis propre à l'être humain et pas uniquement propre à l'homme. Parce qu'on a vu dans d'autres commentaires que cela concerne l'homme, mais également la femme. La femme qui reçoit des avances et qui fait preuve de sabr, qui refuse par amour et par crainte d'Allah, elle aura le même rang le jour de Qiyamah. Parce que l'homme a cette faiblesse. Mais quand on dit l'homme, c'est la race humaine, insan. La femme aussi a cette faiblesse. C'est pour ça que dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal interdit, la première action qui mène vers le zina, c'est quoi? C'est le regard. Il y a le texte est décliné tant au masculin qu'au féminin. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Et au féminin, ça me donne quoi, Suleyman? Masha'Allah.
étape par étape. Akhtar, Masha'Allah. Hafizab, Masha'Allah. Il faudra réviser ta la vie là. C'est mal parti. Qul lil mu'minati yaghudhuna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Il y a au masculin qul lil mu'minin et au féminin qul lil mu'minat. Parce que le amr, enfin plutôt le nahi, l'interdiction est tant pour l'homme que pour la femme. Tant pour l'homme que pour la femme. Et si Allah Azza wa Jal demande à l'homme de contrôler, à la femme de contrôler le regard, parce que c'est ça qui mène vers l'adultère. Et donc, maintenant on arrive au point le plus sensible, l'homme ou la femme reçoit ses avances et il arrive à refuser, cette action-là, elle est tellement aimée par Allah, qu'Allah Rabbul Izzah en récompense donne à cette personne une place sous l'ombre de son arche, de son trône, يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ, le jour où il n'y aura pas aucune zone d'ombre, pas dans l'expression, mais aucun endroit où il y a de l'ombre, où la personne aura le cœur apaisé, si ce n'est ceux qui sont, incha'Allah, Allahumma ja'alna minhum, à cet endroit, ce genre d'endroit, entre autres, sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal. Et cette action, elle va dans le sens de as-sabru 'anil ma'siyah, faire preuve de patience face au péché, qu'on a expliqué en introduction, mais également dans le sens du hadith dans lequel le prophète dit « Man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu » Celui qui délaisse quelque chose pour Allah. En commentaire, les savants disent « Ma'al qudrati alayh » C'est-à-dire, il peut faire le péché, comme c'est exactement ce cas de figure, il peut faire le zina, mais il ne le fait pas, ou autre péché, mais il le fait, il abandonne ce péché pour Allah, uniquement pour Allah. Allah est tellement satisfait qu'Allah va lui accorder un cadeau en échange, quelque chose de mieux, et on l'avait vu il y a deux semaines, cette chose meilleure, c'est la halawatul iman, la douceur de la foi. Que la personne, en accomplissant les bonnes actions, la personne va trouver un épanouissement, une tranquillité, à un tel point que son cœur sera attaché aux bonnes œuvres. Et on avait expliqué il y a 4 semaines à peu près, l'engrenage positif, lorsque on abandonne un péché, on va avoir la douceur de la foi. Du coup, on aura istiqama sur la bonne action parce qu'on aime cette bonne action. Et plus on fait de bonnes actions, on demande istighfar, ben inshallah, on va rester éloigné du haram également. Donc, tout va démarrer de l'éloignement du haram, l'accomplissement des bonnes actions, et puis on va continuer avec accomplissement, accomplissement de bonnes actions. On va sortir du cercle vicieux qu'on va voir dans un instant, le cercle vicieux des péchés. Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, donc ça c'était une petite introduction, on avait entre autres cité l'avis de quelques pieux prédécesseurs, quelques tabi'in, rahimahumullah, sur l'importance de contrôler son nafs. Parce que la base c'est ça, contrôler son nafs. Celui qui, la première catégorie, le roi juste, c'est quelqu'un qui va appliquer la justice dans la façon de gérer les gens qui sont sous son autorité. Le jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah, de notre catégorie, celui qui va faire beaucoup de bonnes actions, mais qui en même temps, il lutte contre son nafs qui le pousse vers le mal, qui le pousse vers le péché. On retrouve un point commun. Mais pour cette catégorie, par exemple pour celui qui sème en Allah, c'est en rapport avec le bon comportement. C'était la troisième catégorie. Mais pour cette catégorie, c'est essentiellement basé sur le contrôle du shahawat, le contrôle des pulsions, et c'est là où shaitan, il va nous avoir, et il arrive à nous faire chuter le plus souvent possible. Et parmi les opinions, les citations des savants, on a vu celui de Malik ibn Dinar, que celui qui arrive à surmonter son nafs et les pulsions vers les biens de ce dunya, فَذَلِكَ الَّذِي, ce genre de personne-là, shaitan n'approche même pas de son ombre. Vous connaissez le sahaba qui faisait peur à shaitan, c'était qui? Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc celui qui en permanence lutte contre les wasawis de shaitan et arrive à s'éloigner de toutes les pulsions de shaitan, ben, à un moment donné, shaitan ne s'approche même plus de lui, même plus de son ombre. Mais en amont, il y a un effort à faire, une lutte permanent contre les tentatives de Iblis, de Shaitan. On avait également l'opinion de Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, que maintenant c'est celui qui, man arda al-jawarih, celui qui écoute le moindre de ses instincts, le moindre de ses pulsions et fonce vers les péchés, vers les ma'asiyah, faqad gharasa li nafsihi shajarun nadamat, cette personne est en train de planter dans son cœur un arbre, c'est une expression donc, qui va aboutir sur des remords. Parce qu'on a l'impression, on a cette fausse illusion, qu'en accomplissant ce genre de péché, on va être heureux, on va être épanoui, on a connu une expérience, une aventure, comme on dit, et donc on va être émancipé, on va être content, mais en vérité, les péchés n'apportent que de la tristesse dans les cœurs. Alors que les bonnes œuvres apportent de la sakina, de la tranquillité, à l'abdikrillahi,
tatma'innul quloub. Donc celui qui suit son nafs dans chaque envie, chaque pulsion, ben il va rester dans ce cercle vicieux de tristesse, de remords, parce que le péché n'emmène que tristesse et remords. On a vu également, dernière citation la dernière fois, de As-Surri rahimahullah, dit que la plus grande lutte, c'est lorsqu'on arrive à lutter contre ses pulsions, alors que Oman ajiza. Et oui, alors que celui qui n'arrive pas à contrôler son pulsion, kana an adabi ghayrihi a'jaz, il aura encore plus, il pourra pas, c'est pas qu'il pourra, il aura du mal, il ne pourra pas éduquer les autres. Et on avait fait une relation avec quoi, si quelqu'un se rappelle, l'éducation des enfants. Je suis un père de famille ou une maman qui n'arrive pas à rester éloigné des péchés. Je n'arrive pas à contrôler mon nafs face au péché, dit que celui qui n'arrive pas à contrôler son nafs face au péché, il ne pourra pas éduquer les autres, il ne pourra pas enseigner la piété à ses enfants. Ça c'est moi qui rajoute, quand on dit il ne pourra pas éduquer les autres, dit que les gens qui sont sous notre responsabilité, ben on ne pourra pas faire passer les bons messages, parce que nous-mêmes on n'arrive pas à le mettre en pratique. Donc automatiquement on n'arrivera pas à transmettre cette taqwa, la notion de piété, à nos enfants. Donc c'est un effort qu'on fait sur soi-même et dont les fruits, inshallah, seront palpables et visibles sur nos enfants également. Alors, pour aujourd'hui, on termine avec une dernière citation qu'on n'avait pas dit la dernière fois, de Abu Muhammad al-Jariri ou al-Jurayri, rahmahullah. Il dit que man istawlat alayhi nafs, dit que celui qui laisse son nafs prendre le dessus. À chaque fois qu'il a envie de quelque chose, il le fait. Il veut regarder quelque chose de haram, il regarde. Il veut écouter quelque chose de haram, il écoute. Il veut manger quelque chose de haram, il mange. Et ainsi de suite. Alors cette personne, sara asiran fi hukmi shahawat, cette personne devient prisonnière de ses pulsions. Je pense qu'on avait juste brièvement abordé ça. Nous, on a l'impression que je suis un homme libre ou une femme libre. J'écoute, je regarde, je fais ce que je veux. On a l'impression qu'on est émancipé. Mais en fait, on n'est pas libre. Quand on fait tout ce que notre nafs nous demande, on est en fait esclave de nos yeux, esclave de nos oreilles, esclave de nos pulsions, esclave de notre nafs. Cette personne devient esclave de son nafs. Mahsouran fi sijnil hawa, il devient emprisonné dans, il devient comme dans la prison du hawa. Le hawa, c'est un synonyme du nafs, c'est les pulsions. Il devient prisonnier de ses pulsions. Et là ça se complique. Wa harrama Allahu ala qalbihi al-fawaid, dit que Allah azza wa jalla rend haram sur son cœur tout ce qui est bénéfique. C'est-à-dire que même s'il écoute énormément, même s'il écoute ou même s'il le dit abondamment, la réalité des paroles des dhikrullah par exemple ne pénétrera pas son cœur, ou alors les bonnes paroles qu'il va écouter n'entreront pas dans son cœur. C'est ce qu'on avait dit en introduction. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu noir, le cœur est rempli et entaché de points noirs qui sont les conséquences des péchés, et donc l'homme ne change pas. Et on constate que parfois de Ramadan en Ramadan, on reste pareil, on ne change pas. Je vais hajj, je reviens, je ne change pas. C'est parce que je n'ai pas demandé tawbatul nasuha. On va dire que, est-ce que c'est quelqu'un de condamné? Bien sûr que non. Mais la solution, c'est de demander un repentir sincère à Allah Azza wa Jal pour ses péchés. Ensuite, de ne plus retourner vers le péché. C'est là que nous voyons que tout se rejoint, que parmi les conditions du tawbatul nasuha, c'est être sincère, regretter le remords, les remords, et al-azmu ala admil aouda. Avoir la ferme intention de ne plus refaire le péché. Et quand la personne a l'intention ferme de ne plus faire le péché, il ne l'accomplit plus, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et donc il n'y a plus de point noir qui s'installe sur son cœur. Ce qui fait que le cœur reste pur, reste réceptif, et donc ce qu'il va écouter comme paroles bénéfiques vont pénétrer son cœur, il va prendre un nouveau départ, il deviendra quelqu'un de bien. Alors que la personne qui reste dans ses pulsions, il ne profitera de rien. Alors, très souvent on dit que à notre époque, il est impossible pour un jeune de ne pas faire le zina. On est à 38 minutes, à 45, on s'arrête, Inch'Allah, 45 minutes. Très souvent, on jette la faute sur la société. Oui, la société est comme ça, les choses sont faites de telle façon, il y a une mixité, les femmes s'habillent mal, les hommes aussi, maintenant ils s'habillent mal, et ainsi de suite. Donc voilà, il est normal de faire les péchés. Comment on peut demander à un jeune de ne pas faire zina? Comment on peut dire à un jeune qui va au lycée, à l'université, ne fait pas la bise aux filles, vice versa? C'est plus possible. Et de nos jours, on cautionne même. Il y a des parents, mashallah, religieux, enfin en guillemets, là aussi Allah seul peut juger, ils viennent à la salah, de grandes familles, mais leurs garçons, leurs fille, le samedi ils sortent ensemble, même si c'est pas pour faire le zina, mais il y a une mixité entre les jeunes, 15, 16, 17 ans, ils vont manger une glace ensemble, ils vont ce qui est totalement haram, ce qui est totalement haram, mais c'est ça le souci. On finit par amoindrir les conséquences des péchés et cautionner nos enfants. Moi, je connais des collègues qui me parlent de cas où ils ont surpris un des jeunes ensemble, mais c'était pas anodin, c'était vraiment, ils s'embrassaient, ainsi de suite. C'est dans un endroit, donc, et ce collègue a été voir les parents de la jeune fille, et c'est les parents de la jeune fille qui lui ont fait des reproches. Ça ne te regarde pas, ça c'est la vie de ma fille, elle fait ce qu'elle veut. Alors que c'était des personnes de bonne famille, entre guillemets. Ne faisais pas vous dire que c'est des gens qui connaissent rien à la religion, ils connaissent parfaitement, mais pour eux c'est quelque chose de tout à fait normal, et ça c'est vraiment, ça c'est la pire des situations. Donc, parfois on jette la faute sur la société, nous allons voir que, on parle du contexte, le contexte ben, est comme ça. Mais le contexte de Youssouf alayhi salam, c'était plus compliqué encore. Et Ibn Kathir, rahimahullah, et on a un condensé, alhamdulillah, on a un très bon ouvrage où il y a un condensé de l'avis des savants. Il dit que toutes les conditions étaient réunies pour que Youssouf alayhi salam sombre, tombe de l'adultère. Et les pires des situations, les pires des circonstances étaient réunies. Premièrement, Youssouf alayhi salam était jeune, c'était un jeune homme. Youssouf alayhi salam était célibataire. Pas marié. Youssouf alayhi salam avait, quelle était une des qualités principales de Youssouf alayhi salam? Une grande beauté. Une beauté éblouissante. Donc, les conditions sont réunies. Wa kana ghariban. C'était un étranger. Et ça, c'est pas anodin. Parce que quelqu'un de telle tribu, de telle famille connue qui fait l'adultère, c'est grave. Mais quelqu'un qui vient de je ne sais pas où ça, personne ne va porter un regard sur la personne, personne ne va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite. Donc quand quelqu'un ne fait pas partie, on va dire, d'un schéma, le schéma de la société, ben c'est un électron libre. Donc pour lui, le zina, c'est tout à fait accessible. Je donne un exemple, hein, et je ne vise personne, et que personne ne se sente concerné. Il y a des gens, quand ils sont ici, avec madame, enfants, belle-mère, beau-père, la famille, Masjid Montreuil, c'est la Tani, Sani, parfait, rien à dire. Mais quand ils sont en voyage d'affaires, c'est la fiesta. Quand ils vont en voyage d'affaires, ils vont en Thaïlande, ils vont en Malaisie, ils vont en, je sais pas, bon, Malaisie, je sais pas, c'est pays musulman. Ils vont, je sais pas, quel que soit l'endroit, hein, peu importe, on va pas citer les noms des pays. Et quand il n'y a pas madame, surtout, et qu'il n'y a personne, et qu'on reste à l'hôtel, et que, voilà, dans les couloirs, on rencontre des gens, dans les ascenseurs, ainsi de suite, ben, c'est là que coco y tourne. C'est là que on se... Parce qu'on est étranger, on est là, on est de passage. On est d'un pays asiatique, d'un pays russe ou je sais pas quoi et tout. Je sais pas où est-ce qu'on est. Et personne ne nous connaît. Quand du pays russe, il y en a qui sourient, je sais pas pourquoi. Personne ne nous connaît. On ne connaît pas la personne. Quand on est un étranger, on est un électron libre. Il n'y a pas la pression de la société sur nos épaules. Quelqu'un de telle famille ne peut pas se permettre. Il ne peut pas marcher avec une femme étrangère d'un chemin. Tout le monde va regarder, va prendre photo, va tweeter, ainsi de suite. Ça se sera. Il rentre son gaz, il gagne tache tefal sur son front. On lui tâche la main, d'accord. Mais quand on est étranger, on est un électron libre. Ben, c'est le cas. Enfin, c'est la situation de Youssouf alayhi salam. Il ne fait pas partie de ce peuple, lui. Il a été récupéré, on l'a amené, il a été adopté. Donc, il n'a aucune pression, il n'a aucun rattache avec les familles, les tribus, les dynasties, entre guillemets. Donc, toutes les conditions sont réunies. Et en plus, wa kana abdan laha. En plus, c'était l'esclave de cette dame. Parce qu'il avait récupéré l'histoire du Youssouf alayhi salam, c'est pas le but, mais on connaît, quand il était petit dans un puits, ainsi de suite, il a grandi, et donc il appartient à cette famille. Donc ils ont un certain droit sur lui. Et un esclave, vous savez, s'il désobéit, le maître, ben, il a tout pouvoir. Si on veut l'exécuter, on veut l'emprisonner, il n'y a pas d'avocat, on est dans une société, d'accord, il n'y a personne qui va le défendre, ainsi de suite, il n'y a pas de tribunal, rien du tout, parce que c'était la famille régnante. Donc franchement, c'est une situation complexe, extrêmement compliquée, et... Dans l'autre, maintenant qu'on regarde de l'autre côté, et il dit, le savant dit, فَدَافِعُ الشَّهَوَى أَكْبَر. Il dit que ce qui le poussait vers le péché, ce qui aurait pu le pousser, pardon, vers le péché, était énorme, parce que cette femme qui le convoitait était d'une grande beauté, حَسْنَا جَمِيلَ. Et il n'y avait personne avec elle, et donc le péché était à portée de main de Youssouf alayhi salam, qui était un jeune. Et quand on est jeune, on connaît qu'on a des pulsions. Ce sont les insans, les êtres humains. Mais Youssouf alayhi salam, et en plus, et le petit plus, c'est que si il ne voulait pas satisfaire ce que la princesse ou la reine demandait, ben, il allait en prison. Et la reine aurait eu, avec toute aisance, il aurait pu faire accuser auprès du roi, dire que voilà, c'est lui qui a essayé, comme le verset du Coran le prouve. Et le roi, il croit qui ? L'esclave ou bien son épouse ? Son épouse. Ils auraient été une humiliation et ainsi de suite. Donc, la situation de Youssouf A.S. était beaucoup plus compliquée que la situation de nos jeunes. Est-ce qu'il existe un jeune lorsqu'il va au lycée qu'une fille demande de sortir avec moi ? Sinon, mon père, il est commissaire et il va te mettre en prison avec des méchants. Ça n'existe pas, ça. Tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes pas, tu acceptes pas. Mais personne dit que si tu sors pas avec moi, il y a tout le monde que tu as essayé de me violer. Personne n'est exposé à de telles situations que la personne est obligée de dire, tu es obligé, sinon on aurait dit les gens que j'ai essayé. Ah ben donne. Youssouf al-Islam, c'était ça. Soit il accepte, soit on le fait emprisonner, on le fait accuser. Et c'est exactement, il a préféré la prison plutôt que de faire un pas vers le haram. Il a obtenu, bi-idhnillah, la protection d'Allah Azza wa Jal. Alors, très rapidement, on va voir quelles étaient les réactions, quelles étaient les qualités, on pourrait dire, qu'Allah Rabbul Izzah a accordé à Youssouf alayhi salam. Déjà, dans le Coran, on dit « كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَى » qu'Allah a éloigné de Youssouf alayhi salam, je n'ai pas la traduction exacte, tout ce qui est mauvais et les péchés. Parce que « إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ » Allah a éloigné de lui les péchés et les choses mauvaises parce qu'il faisait partie des serviteurs mukhlis, les serviteurs qui étaient sincères. Les savants disent que lorsqu'une personne passe une vie dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et qu'il crée une relation avec Allah Azza wa Jal et qu'il s'éloigne de l'intégralité des péchés, ben cette personne, Inch'Allah, devient protégée. Cette personne est protégée par Allah Azza wa Jal. Et on reviendra en permanence sur ce hadith-là qui nous impressionne dans le hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète dit à Ibn Abbas, « Ihfadillaha yahfadhuka » Protège le dîn d'Allah, c'est-à-dire apprends, mets en pratique, éloigne-toi du péché et propage. Fais le khidmat du dîn, yahfadhuka. Allah te protège. Allah te protégera contre toute chose mauvaise. Et les savants ont commenté, disent également que la personne sera, inshallah, de cette façon, protégée contre les pièges de Shaytan. Donc, al-istiqama, al-ta'a, l'obéissance, la fermeté dans les bonnes actions, la fermeté dans l'éloignement de tout ce qui est haram, ne jamais faire un pas vers les pulsions, vers les shahawat, vers le haram, c'est déjà une garantie de protection contre ce genre de péché. Allah nous éloigne, Allah nous protège d'être dans des situations où on est exposé à ce genre de péché. Pas parce qu'on est vilain, mais parce qu'Allah nous protège. Et ça, c'est une situation qui est enviable et que le croyant doit demander à Allah la protection contre les pièges de Shaytan, contre les situations de tentation. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, la première qualité de Youssouf alayhi salam, c'était إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ C'était, il était sincère dans sa dévotion envers Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on parle de ikhlas, maintenant on retourne vers le discours de Iblis, le discours de Shaytan. Lorsque Shaytan était chassé du ciel parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui accorder le temps afin qu'il ne meure pas, afin qu'il puisse détourner le maximum de gens du droit chemin. Et là, il a fait la promesse à Allah Azza wa Jal, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, je jure par ton honneur, il jure par Allah. Shaytan jure par Allah. Il va à l'encontre des ordres d'Allah, mais il reconnaît que c'est Allah son créateur. Il dit, je jure que, en ce sens, hein, que je vais les détourner, je vais tous les détourner, sauf illa ibadak, sauf tes serviteurs parmi eux, les mukhlasin, les serviteurs qui étaient sincères. Et en commentaire, les mufassirin disent, al-mukhlasin, ay, istakhlasu hayatahum lillah. Ils ont consacré leur vie à Allah Azza wa Jal. Ils ont wastafahu li hadrat. Et donc, Allah Azza wa Jal les a choisis. Donc, la première qualité de Youssouf alayhi salam, c'était la sincérité et une dévotion totale envers Allah Azza wa Jal. Et quand on parle de dévotion, c'est tant de l'accomplissement de bonnes actions, mais également de refuser de façon permanente les pièges de Shaytan. Et comme on a vu avec la citation de notre plus prédécesseur, le Tabi'in, plus vous vous éloignez des pièges de Shaytan, moins il aura d'emprise sur vous. C'est-à-dire que si on veut être protégé de ce genre de gros péchés, ça on appelle, c'est des gros péchés, des grands péchés, des kaba'ir, pas besoin de chercher une expression. Si on veut être protégé des kaba'ir, des péchés majeurs, il faut faire un effort face aux péchés du quotidien. Si je veux être protégé de l'adultère, je fais des efforts face par rapport au regard. Je fais des efforts par rapport à la parole. Je ne vais pas parler avec n'importe quelle femme, parler, discuter, ainsi de suite, demander des trucs bêtes. Je contrôle ma parole, je contrôle mon regard. Je ne vais pas écouter les femmes non plus. Je ne sais pas moi. Tout ce qui va tourner autour de ce grand péché, je m'en éloigne et je ferme les portes à Shaitan. Et de cette façon, la grande porte ne s'ouvrira pas. Mais si j'ouvre toutes les petites portes, ben assurément un jour je risque d'ouvrir la grande porte. Donc, pour être protégé, il faut être mukhlis, il faut donner, il faut consacrer sa vie pour Allah. Rester éloigné des péchés, fermer la porte à tous les péchés possibles. Si on veut éviter, je répète, de tomber dans ce genre de grand piège, ben à nous de, et ce genre de grand piège auquel on ne s'attend pas parfois, à nous de rester éloigné des péchés qui sont perceptibles. Ça, c'est des péchés que je connais. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Je sais que ça, c'est haram, c'est sous contrôle. Ben, je fais en sorte de ne pas les accomplir. Et avec ça, Inch'Allah, on a espoir qu'Allah Azza wa Jal nous protège des grands péchés. Donc, première qualité de Yusuf alayhi salam, la sincérité. Son cœur était dévoué à Allah Azza wa Jal, donc Shaitan n'avait pas d'emprise sur lui. Comme Shaitan n'a jamais eu du terrain sur lui, ben c'est pas à ce moment qu'il va le faire chuter. Si nous aussi on bloque Shaitan à chaque tentation, ben il ne pourra pas nous faire chuter plus loin. Mais si à chaque fois Shaitan nous dit quelque chose de l'oreille, on fait, ben lorsqu'il nous dira de faire un gros truc, ben on fera un gros truc, qu'Allah nous protège. Deuxièmement, autre qualité du Yusuf alayhi salam, al-ihsan. Il avait développé cette plus grande qualité de la foi qui était à l'ihsan, c'est ressentir la présence d'Allah à tout moment. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Fais l'adoration d'Allah comme si tu le vois. Et comme on ne peut pas voir Allah, on a cette conviction qu'Allah nous voit. Adoration d'Allah comme si on le voit, les savants expliquent que quand tu fais les bonnes actions, essaie de te figurer que tu es devant Allah. Et on est devant Allah. Allah nous observe. On essaie de faire le maximum. On fait l'action de, on fait la bonne action avec le maximum de dévotion, de concentration, de perfection pour montrer à Allah notre dévotion. Le seul à qui on peut montrer les bonnes œuvres, c'est Allah. Pour qu'il voit ce qu'il y a. Et Allah voit ce qu'il y a intérieurement, notre sincérité, notre dévotion. Et l'autre, la deuxième partie de cette phrase, c'est « فَإِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ ». Ça, c'est un degré plus bas, mais ça reste quand même de le summum du ihsan. Si, comme on ne le voit pas, si on ne le voit pas, si on n'arrive pas à se configurer qu'on est devant Allah, mais savoir au moins qu'Allah nous voit. Et de cette façon, jamais on va s'éloigner d'un ordre où on va faire un pas vers le haram, parce qu'on sait que à ce moment précis, Allah est en train de me voir. On pourrait même dire « Allah est en train de m'observer ». Et les malaïkas sont là, ils inscrivent les actions, ainsi de suite. Donc, Yusuf alayhi salam avait atteint le summum dans cette qualité. Et il y a pas mal de versets. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّا نَرَاكَ Encore, فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Donc, beaucoup de versets, on ne va pas tous les citer, hein, qui prouvent que Yusuf alayhi salam avait atteint ce degré. C'est-à-dire que quand on arrive à développer la dévotion dans les bonnes œuvres, être vraiment, ressentir la puissance d'Allah, la présence d'Allah dans chaque bonne action, on arrive à cette élévation spirituelle dans les bonnes œuvres, ben, Inch'Allah, Shaitan n'aura pas d'emprise sur nous. Donc, première réaction, bloquer l'accès à Shaitan dans les péchés qu'on connaît. Faire en sorte de ne jamais écouter les tentations de Shaitan, même dans les péchés qu'on considère comme, na'oudou billah, insignifiants. Il y a le prochain hadith qui est prévu dans les Hadith Salihin. C'est une citation d'un sahaba qui, je ne sais pas si c'est Anas bin Malik, celui qui a vécu 90 ans. C'est bien Anas bin Malik, et qui s'adresse aux tabi'in. Il dit que, à notre, il dit vous, les tabi'in, il parle aux tabi'in, hein, il ne parle pas aux réunionnais en 2015, hein, il parle aux tabi'in. Il dit que vous accomplissez des péchés, des actions que vous considérez comme insignifiants, alors que nous, à l'époque de notre Habib, lorsqu'il était vivant, on considérait ça comme étant des grands péchés, des mohlikats, des péchés qui peuvent causer la destruction, et aujourd'hui vous les accomplissez comme si c'était des petits péchés. Et il ne parle pas des guna kabira, hein, il parle de certains péchés du quotidien. C'est-à-dire, et en commentaire, les savants disent, on verra ça une challenge prochaine, dit que quand le iman est fort, ben, on considère le moindre péché comme étant grave. Et quand on dit que non, ben il est sali, il est petit, ben, ça n'est pas grave ça. Quand on dit ça n'est pas grave ça, en insistant sur le du grave, c'est que le iman il est vraiment réduit, qu'on ne prend plus considération du péché. Par exemple, je donne l'exemple de personnes qui ramassent des brindilles, il dit à force de cumuler des petits péchés, des brindilles, vous arrivez à faire un brasier, à faire un grand feu, qu'Allah nous protège. Donc
cette deuxième qualité, donc cette première qualité, fermer les portes à Shaitan et les péchés, même les plus insignifiants. Deuxième qualité qu'on doit essayer de développer pour ne jamais sombrer dans cette tentation de Shaitan, pour ne pas être exposé à ce genre de fitna, et au cas où si on est exposé pour savoir dire non, essayer d'atteindre la taqwa, le ihsan, en travaillant la qualité de bonnes actions. Et là, ça nous amènerait vers un autre point, on va s'arrêter là pour ce soir. Quelle est la meilleure façon de développer le ihsan, si ce n'est de connaître la grandeur et la beauté de notre Créateur? Quand on fait la salah, quand on connaît comment, enfin pas comment, mais quand on connaît qui est Allah, qu'on arrive à approcher hein, d'une certaine façon la grandeur d'Allah Azza wa Jal, c'est là qu'on va développer la khushu', le khudu', la concentration, la dévotion, l'humilité. Et pour cela, on doit essayer de connaître les qualités de notre Seigneur. Quand on connaît les qualités de notre Rabb, assurément la grandeur d'Allah augmente et s'installe dans notre cœur, et la dévotion va s'installer inshallah de l'accomplissement des bonnes actions. Donc ça, c'est la deuxième qualité. Et la troisième qualité inshallah, on verra la prochaine fois. Et du coup, l'histoire de Atta, rahimahullah, s'appelle bien Atta, l'histoire de Atta ibn Yassar, rahimahullah, on verra la prochaine fois. Et sa troisième qualité qui est Laula ar-ra'a burhan rabbi, Yusuf a vu la preuve évidente de la part d'Allah Azza wa Jal. On va voir que la troisième qualité, c'est de rechercher la vérité à travers les textes et de reconnaître la vérité et la réflexion. Réfléchir en permanence, analyser en permanence ce qu'on fait et demander à Allah de nous faire voir le haqq. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Allah, fais-nous voir la vérité comme étant véridique et donne-nous la possibilité de le suivre. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Et fais-nous voir le faux comme étant faux réellement, et donc qu'on ne soit pas trompé entre le bien et le mal, et donne-nous la possibilité de rester éloigné. Donc une qualité qu'on doit essayer de développer, c'est une réflexion permanente, c'est at-tadqiq. Chaque chose qu'on fait, on analyse et on essaie de voir quel est l'ordre d'Allah. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est makruh? Est-ce que c'est déconseillé? Si c'est déconseillé, là aussi on essaie d'éviter dans la mesure du possible pour ne pas commencer à faire des pas vers Shaitan. On verra ça inshallah la prochaine fois. On va voir c'est quoi l'état d'éveil du croyant. L'état d'éveil du croyant lorsqu'il est face à un péché, il y a 4 ou 5 attitudes à adopter pour qu'il réalise vraiment que, on reste dans l'exemple du zina, pour qu'il réalise vraiment que face à ce péché, cet adultère, que quelles sont les conséquences. On verra ces 5 pistes de réflexion inshallah là la prochaine fois, tout comme on verra Atta ibn Yassar qui est en voyage avec ses amis sont partis chercher je sais pas du bois ou autre chose pour faire du feu, lorsqu'il est seul, il y a une femme d'une grande beauté qui se présente à lui et que son cœur, il sent que son cœur va pencher pour cette femme. Et quelle fut sa réaction et quelle fut la récompense aussi de ce dunya, la vision de Yusuf alayhi salam qui a Mashallah, qui a reconnu la grandeur de son geste, et qui donc, cette personne reçoit donc cette bonne nouvelle de Yusuf al-Islam de son rêve. Donc ça, Inch'Allah, Rabbul Izzah, on va essayer de développer dans 2 semaines. Pourquoi dans 2 semaines? Parce que c'est un mardi sur 2. Mardi prochain, c'est les signes de Qiyama qu'on va compléter en ville mardi prochain, Inch'Allah. Et donc, à Montreuil, on essaiera de faire, Inch'Allah, dans 2 semaines, qu'Allah Azza wa Jalla tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos proches. Et simple petit rappel, mais important, vous savez de quoi je parle quand je vous montre ces formulaires. Le concours Hajj a commencé depuis 5 ou 6 jours, c'est jusqu'au 2 juin. On essaie de faire le maximum d'efforts pour remplir les formulaires. Il y a 20 questions, on a un mois, on fait une question par jour. Et j'ai un ami qui a complété hier, donc il a, mashallah, une journée, il a fait l'intégralité des questions, il ne l'a pas trouvé très difficile, donc on essaie de s'accrocher inshallah. L'objectif premier, c'est talabul ilm, parce que cette édition parle essentiellement des fadha'il des sahaba, des qualités des sahaba, et la mise en garde contre les personnes qui donc portent un mauvais jugement sur le sahaba, que ce soit l'avis des tabi'in, des tabi'in ou des savants contemporains, sur l'amour que chaque croyant doit avoir pour le sahaba. Et puis avec ça, en option, si on peut faire doua, inshallah, également, d'avoir ce hajj, je pense que ce serait profitable. Il y a une personne qui me disait il y a quelques temps, quelques jours, lorsqu'il voit les affiches et les prix du hajj en ce moment, on dit que c'est terrible. Oui, c'est vrai, lorsqu'on voit que ça grimpe, avant on parlait des 4, 5, 5. Moi je me rappelle à l'époque, on faisait hajj combien? 3 000, 5 000, 4 000. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a différents facteurs. Il y a l'agrandissement de Haram, donc destruction des hôtels, les logements sont chers, l'euro a chuté. Hein, on n'en parle pas trop. On va parler des musulmans qui sont les méchants. Mais l'euro n'a jamais été aussi bas. Donc, les prix des hôtels, le prix des avions, c'est plus conséquent. Vous voyez, quand vous voyez des prix un peu exorbitants sur les affiches, c'est pas qu'ils s'en mettent plein les poches. C'est que vraiment, c'est un contexte. Et nous, on est un peu dans ce travail aussi. On sait que pour les organisateurs, c'est pas simple. C'est pas simple parce que le problème, ça vient de nous. On est tellement exigeant, on veut du 5 étoiles pied dans l'eau, avec buffet, avec tente 5 étoiles, VIP, Hajj. Et en plus, on veut payer pas cher, donc ce qui est impossible, ça justifie les prix. Donc, si on peut avoir un Hajj, mashallah, offert avec de telles conditions, je pense que ça ne se refuse pas. L'objectif premier, c'est Ikhlas pour le ilm, et ensuite, si notre taqdir est ouvert de cette façon, alhamdulillah, nourun ala nour. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq, inshallah, de mettre en pratique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.